Dimanche passé, à Pâques, nous avons rencontré Pierre et Jean devant et dans le tombeau vide suite à la résurrection du Christ. C'est encore la même paire de disciples, Pierre et Jean, que nous retrouvons après la Pentecôte à la porte est du temple appelée la Belle Porte ou Porte d'Or, voire en hébreu, Porte de la Miséricorde. Terme tout à fait justifié quand on aura entendu ce qui s'est passé à cette porte ce jour dont je vais parler. Lorsque Jésus est entré à Jérusalem par le mont des Oliviers, il en est question dans Matthieu 21, il a emprunté une porte située au même endroit que l'actuelle porte de l'Est ou porte d'or. Dans ce même chapitre de Matthieu 21, le verset 14 nous rapporte qu'après avoir fait de l'ordre dans la maison de son père, dans le temple, en renversant les tables des changeurs de monnaie et des marchands de pigeons, dans le temple justement, Jésus avait guéri des aveugles et des boiteux qui s'étaient approchés de lui dans le temple pour être guéris. Un boiteux, âgé de plus de 40 ans, selon Acte 4, 22, n'en faisait manifestement pas partie. Mais Dieu lui a fixé un autre rendez-vous. Il se trouve, lui aussi, à la porte du temple, la même porte que s'apprête à franchir Pierre et Jean. Il est boiteux de naissance. Tous les jours, on installait cet homme vers cette belle porte pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Vous imaginez-vous un peu le sort de cet homme. Mais lisons maintenant ce récit tel que Luc, le médecin, nous le rapporte dans Acte 3. Ce troisième chapitre des Actes se divise en deux parties. D'abord, celle qui parle de la guérison de ce boiteux, et ensuite, une prédication de Pierre qui saisit cette occasion pour parler à la foule qui est là. Je lis donc, Acte 3, 1. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous !» Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement, de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple, stupéfait, accourut vers eux au portique appelé portique de Salomon. Quand Pierre vit cela, il dit au peuple, « Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate, qui lui était d'avis de le relâcher. Mais vous, vous avez renié celui qui était saint et juste. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors, des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Moïse a dit, en effet, à nos ancêtres, le Seigneur votre Dieu fera surgir pour vous, parmi vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. » C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus, et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Jusque-là, la lecture. Ce miracle extraordinaire suscite l'étonnement et la stupeur du peuple qui voit le boiteux bien connu de tous les fidèles qui fréquentent le temple marcher, sauter et louer Dieu. Pierre adresse alors aux gens présents une magnifique prédication centrée sur le Christ. C'est la deuxième prédication de Pierre, après celle de la Pentecôte, que Luc nous rapporte. Mais revenons d'abord au miracle lui-même. Au pied de cette magnifique porte du temple, en contraste avec elle, on trouve un misérable, boiteux de naissance au pied de cette porte. Il est totalement dépendant des autres, de ceux qui le transportent vers son lieu de mendicité d'abord, et ensuite de ceux qui veulent bien lui donner une petite pièce en espérant peut-être bénéficier d'un certain mérite pour leur bonne œuvre. Selon ses habitudes, cet homme demande l'aumône à Pierre et Jean, qui ne passent pas à côté de lui presque sans le regarder, en lâchant une petite pièce. Les apôtres proposent une vraie rencontre à cet homme. Avec eux en premier, ils lui disent « Regarde-nous !» Mais surtout avec le Christ. Pierre lui dit alors « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Pierre, un observateur, aurait pu faire un pas en arrière pour voir ce que le Christ allait opérer. Mais Pierre le prend par la main droite et le fait lever en un geste de rencontre et d'amour, comme il avait vu Jésus tendre la main à la fille de Jaïrus. Luc précise alors des détails importants pour un médecin. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. Quand on sait le temps qu'il faut souvent de réhabilitation, quand on a été arrêté pendant longtemps, cet homme, boiteux de naissance, qui n'a jamais marché, ses chevilles et ses pieds s'affermissent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Quel miracle extraordinaire! Un commentateur précise à juste titre, la puissance de guérison était celle du Christ, mais la main tendue était celle de Pierre. Passons maintenant à la seconde partie du texte, soit la prédication de Pierre à la foule, à partir du verset 12. La guérison du boiteux qui suivait Pierre et Jean en courant, sautant, attire les foules et donne à Pierre l'occasion d'importantes précisions. Il dit, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous le regard sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme. Pierre et Jean ne veulent pas être déifiés et prendre la place de Jésus-Christ dans le cœur des Israélites. La puissance derrière ce miracle est bien celle de Jésus, dont il invoque le nom, Jésus qui avait été acclamé par les foules le dimanche des rameaux. Et ce même Jésus, comme le dit le texte, que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate, qui était, lui, d'avis de le relâcher. Il semble que Pilate avait eu plus de perspicacité quant à la personne de Jésus qu'il reconnaissait comme innocent que la foule qui voulait le faire condamner. Pierre ne craint pas d'appeler un chat un chat et de dire toute la vérité à propos des événements passés. Il dit, vous avez renié celui qui était saint et juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'avoir tué. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité nous en sommes témoins. C'est à ce Jésus, prince de la vie, que Dieu a ressuscité, qu'il faut attribuer la puissance et la gloire de cette guérison miraculeuse du boiteux. Pierre réoriente le regard et la pensée des Israélites, loin du boiteux qui marche et qui saute, et loin de leur propre personne qui ont été l'instrument de ce miracle, vers celui qui est l'auteur du miracle, vers Jésus, prince de la vie que Dieu a ressuscité. Après avoir accusé les Israélites et leurs chefs d'avoir fait arrêter et mourir le prince de la vie, Pierre souligne que c'était par ignorance qu'ils l'ont fait. Que leur acte demande toutefois de se repentir. Pierre souligne aussi que le Dieu Tout-Puissant n'a pas été pris au dépourvu et a agi en pleine connaissance de cause, en déployant son plan d'amour et de nouvelle vie selon ce que les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé depuis des siècles. Le Christ devait souffrir jusqu'à mourir sur la croix, mais Dieu allait le ressusciter. C'est la foi en ce Dieu, Dieu qui a ressuscité le prince de vie, que s'est opéré le miracle de guérison dont les Israélites ont été témoins. C'est la repentance de leurs péchés et aussi la foi en Jésus qui est nécessaire pour obtenir le pardon de leurs péchés. Pierre interpelle alors ses auditeurs. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et Pierre ajoute de magnifiques promesses. Alors, des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur, et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps. La guérison du boiteux est un signe dans le temps, signe de rafraîchissement, signe de l'action de restauration que Dieu a opérée et qu'il continue d'opérer jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps. Dieu, ces miracles, parfois discrets, parfois spectaculaires, nous rappellent que nous sommes en route vers l'accomplissement complet des prophéties de l'Ancien Testament jusqu'au moment de la restauration totale lors de la seconde venue du Christ. Pierre cite Deutéronome 18, les versets 15 et 19. Et en faisant cela, il rappelle aussi à son auditoire qu'un nouveau positionnement par rapport à Jésus est absolument nécessaire. Le Seigneur, votre Dieu, fera surgir pour vous parmi vos frères un prophète, ce prophète étant Jésus. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du peuple. C'est un jugement grave. Un nouveau rejet de Jésus impliquerait donc d'être exterminé du peuple. À ceux qui toutefois accueillent Jésus, Pierre rappelle la merveilleuse alliance et les promesses faites à Abraham, père de la nation juive, et par extension, Père des croyants que nous sommes. Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance, c'est-à-dire en Jésus. C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus, et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Faisons nôtre cette bénédiction, et nous ne nous lassons pas d'en témoigner auprès de ceux qui ne connaissent pas encore cette bonne nouvelle, mais qui, selon le plan de Dieu, doivent en bénéficier, soit toutes les familles de la terre. Amen.